en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
J'invite Paul Andreux maintenant à nous parler de sa lettre aux jeunes architectes. C'est ainsi que je traduis ce que... Mais avant, je me dois absolument de présenter Paul Andreux parce que je suis convaincu que tout le monde le connaît, mais ça me fait plaisir de répéter, de rappeler tout ce qu'il a fait. Diplômé de l'École Polytechnique, vous menez de front un cursus de l'École nationale des ponts et chaussées dont vous sortirez ingénieur en 1963 et à l'École nationale supérieure des beaux-arts dans l'atelier d'architecture de Paul Lamache dont vous sortirez diplômé en janvier 1969. Dès le début de votre carrière, vous rejoignez la société Aéroports de Paris qui vous confie le poste d'ingénieur en chef du département travaux puis du département architecture. Vous devenez architecte en chef et directeur des projets, puis directeur de l'architecture et de l'ingénierie. Parmi vos principales réalisations figurent les aéroports de Roissy et sa gare TGV-RER, les aéroports d'Abu Dhabi, de Jakarta, du Caire, de Dar es Salaam, de Brunei, de Kansai dans la baie d'Osaka, de Nice, de Bordeaux, de Pointe-à-Pitre. L'Arche de la Défense que vous construisez sur des dessins de Otto Sprekelsen, lauréat du concours, ainsi que le terminal français du tunnel sous la Manche. Vous êtes élu membre de l'Académie des Beaux-Arts le 19 juin 1996 au fauteuil d'Henri Bernard. En 2006, vous avez reçu pour l'ensemble de votre œuvre le Grand Prix du Globe de Cristal, la plus haute distinction triennale de l'Académie internationale d'architecture. Vous avez été membre du jury du concours international de programmation du Grand Louvre en 1983, mais aussi président du jury du concours de consultation pour le réaménagement du palais de Tokyo en 1988. Vous êtes également membre de l'association Ville et Projets, de l'association 75021, membre de la Commission supérieure des monuments historiques et membre de l'Institut pour la recherche appliquée et l'expérimentation en génie civil de l'Académie de l'air et de l'espace et de l'Académie d'architecture. Sans plus tarder, chers confrères, cher Paul Andreux, nous vous écoutons.
Vous n'avez pas cité l'Opéra de Pékin.
Ouais. C'était l'Opéra de Pékin, ouais. Merci de me le rappeler. Mais comme j'étais plongé dans cette lecture, ouais. L'Opéra de Pékin.
Ouais, et à M. Huxical. Si vous le permettez, évidemment, j'avais noté l'absence de cette mention qui me touche particulièrement. Je voudrais signaler aussi qu'on a omis dans cette liste d'œuvres si importantes les trois salles de concert de Pudong à côté de Shanghai, qui sont des chefs-d'œuvre, et le terminal de l'aéroport de Shanghai à Pudong, qui est dû au talent de notre ami Paul. Voilà, j'en oublie, mais voilà.
Que Paul me pardonnera ses oublis.
Il y a une chose que je pardonne mal,
c'est
très mal, c'est qu'on n'ait pas dit que je suis membre de l'Académie des vins de Bordeaux.
Ah, pardon. Et par ailleurs membre de l'Académie des vins de Bordeaux, décidément.
Ce qui, vu la qualité de mon gosier...
Il y a beaucoup de trous.
...est une nomination inattendue... Hein, immérités, et ce sont toujours, vous le savez bien, les plus belles.
Très bien, nous allons veiller à rectifier ce petit texte.
Bon, alors, à part ça, je suis dans l'embarras, parce que vous savez pourquoi je vous parle aujourd'hui, parce qu'il y a un creux, quoi. Il y a un creux dans le programme, quelqu'un devait venir parler, il n'est pas venu, donc on va chercher... Et moi, je vais vous lire quelque chose qui ne vous est pas du tout adressé, vous comprenez. J'ai l'impression de lire le courrier d'un autre à quelqu'un qui n'est pas destiné. J'écris une lettre à un jeune architecte, à des jeunes architectes. La plupart d'entre vous ne sont pas architectes. Mais enfin, vous êtes très jeune d'esprit, bien sûr. Mais je veux dire que quand vous allez entendre vous, pensez que ça ne s'adresse pas à vous, que vous n'êtes pas vous. Et en plus, considérez que j'ai dit des choses simples parce que je veux me faire comprendre simplement par des gens qui commencent, qui sont à leur début et pas des gens comme vous qui sont au beau milieu de leur création. Donc tout ça, toutes ces précautions quand même pour vous dire que c'est un texte un peu bizarre que je vais vous lire. Enfin, il est bizarre ici, il était normal là où je l'ai prononcé, c'est-à-dire à l'école de Belleville qui m'avait invité à une conférence-discussion. Et voilà ce que je leur ai dit. Je commence. Pour le congrès de l'UIA de 1999, il y a 16 ans, j'ai écrit un texte que j'ai lu dans l'immense salle du Palais du Peuple à Pékin, une lettre. Une lettre adressée à un jeune architecte. Il a été publié par les éditions Fata Morgana en 2011. Je l'ai relu pour préparer cette conversation avec vous, qui n'êtes pas vous. Je l'ai relu pour préparer cette conversation avec vous. Pourquoi ? Pour tenter de calmer mon inquiétude, celle de me répéter et que les mots d'alors aient perdu leur sens, leur pouvoir de conviction, leur capacité surtout de transmettre une émotion. Je pourrais aujourd'hui vous renvoyer à ce texte, j'y ai dit tout ce qui était, tout ce qui est encore important à mes yeux, et faire ensuite pour vous une nouvelle version de la conférence que j'ai faite tant de fois, 50 peut-être, sur mon travail, en commentant des images, toujours d'une manière un peu différente, pour tenir compte de l'auditoire, de ses attentes, des circonstances, de mon humeur. Mais c'est jouer avec un kaléidoscope dont les mêmes éléments secoués font, grâce au jeu des miroirs, des images qui semblent changeantes, mais qui sont au fond toujours les mêmes, sans véritable découverte. Or, parler à quelqu'un longuement, à vous aujourd'hui, n'a d'intérêt que dans la découverte que peut faire celui qui parle d'une idée nouvelle, de la prolongation d'une autre plus ancienne, ou, et l'utilité est alors à son comble, de l'erreur de ce qu'il a considéré des années comme sûr, vrai, rassurant. Plus que le corps bien établi, bien construit des opinions et des convictions de celui qui parle, c'est pour l'auditoire, pour chacun de ceux qui écoutent plutôt, les hésitations, les fissures, les doutes, et grâce à eux, l'émergence de questions nouvelles et imprévues qui ont de l'importance. Je le disais dans ma lettre de 1999, mes certitudes du moment ont moins d'importance que mes doutes, et nos réponses les meilleures comptent peu au regard des questions qui les remettent en cause. La répétition, cela doit être, comme au théâtre, toujours un nouvel effort de pénétration, de compréhension, certainement pas un simple exercice de mémoire. Il m'a semblé que j'avais à nouveau des choses importantes à vous dire, alors j'ai repris la plume au sens strict, celle de mon stylo, celui qui me sert surtout à dessiner depuis que j'utilise l'ordinateur pour écrire. Ma plume parce que je voulais aller vite et plus directement en me corrigeant moins sur le moment, quitte à le faire longuement plus tard. Petite parenthèse, vous vérifierez qu'effectivement je ne me suis pas corrigé beaucoup. Fermez la parenthèse. En 16 ans, que s'est-il passé ? Pour vous, rien au fond. Vous n'êtes plus celui à qui je m'adressais, vous êtes toujours un jeune architecte, vous êtes resté jeune, moi j'ai vieilli, inexorablement vieilli. Mais bon, qu'importe, désillusions, fatigue, épreuves et aussi bonheur et satisfaction, l'architecture, la littérature, l'art doivent résister à tout cela. Non qu'ils puissent éviter d'en être imprégnés, mais parce qu'il leur faut simplement trouver comment les dépasser en s'en nourrissant. Que s'est-il passé pour moi pendant ces 16 années ? Au cours des 4 dernières, j'ai été professeur, à temps très partiel, trop partiel peut-être pour que l'expérience ait pu être significative. J'en attendais pourtant beaucoup. Mes parents étaient tous les deux professeurs. Le devenir un peu à mon tour, c'était, je le croyais, rejoindre le milieu qui m'avait formé à un âge auquel, en France, il n'est plus temps de le faire, puisque, après 65 ans, on est trop vieux pour enseigner. Mais plus qu'un retour, j'imaginais un départ. Ma vie allait prendre un cours nouveau. Je ne serais plus dans la tension permanente, l'angoisse même de la création. J'aiderais d'autres plus jeunes à découvrir leurs désirs, puis à l'affronter. Ce faisant, je rendrais aussi à la Chine un peu de ce qu'elle m'avait donné. J'ai découvert l'université. Élève de nos grandes écoles françaises, j'imaginais que les campus étaient davantage qu'elles des lieux ouverts où toutes les connaissances se rassemblaient, se rencontraient, se confrontaient. J'ai vite compris que, en Chine, comme en France d'ailleurs, il n'en est rien. Aucune relation horizontale ou transversale, comme on dit plus fréquemment. Chaque spécialité s'enferme dans son ghetto. C'est au fond l'inculture qui règne. Et ce qui passe des uns aux autres, c'est seulement un bavardage fait de mots à la mode, que la mode impose un temps en les vidant de leur sens. Bon, tant pis. Après tout, avant de vouloir utiliser les bienfaits de l'horizontalité, je tiens décidément à la gravité, il faut bien d'abord aller au fond des choses, rechercher les vues les plus élevées, travailler en somme à la verticale. Et puis, de toute façon, la barrière des langues s'ajoutait à celle des disciplines. Pour rencontrer les autres, il fallait attendre, attendre la fin des études peut-être, et le tout dernier moment avant le début de la vie professionnelle. Mais non. Maintenant, je sais que ça n'arrive pas. Les cloisonnements sont durables, souvent définitifs. Dans cette même période, j'ai constaté qu'au sein de l'Institut de France, auxquelles j'ai l'honneur d'appartenir, elles se poursuivent. Les académies qui le constituent ont chacune leur jour, leurs membres restent entre eux et ne se rencontrent qu'entre de très rares occasions. Bon, voilà, j'étais ignorant et plein d'illusions, j'ai été déçu. Il n'y a rien là que de courant, rien qui doive détourner du devoir d'enseigner. Oui, mais quoi? Que faut-il précisément enseigner et comment? Ce serait faire une offense à ceux qui consacrent l'essentiel de leur temps à l'enseignement, de prétendre le savoir après 4 ans seulement d'une expérience bien partielle. Comprenez que je m'en tienne à de simples généralités et au seul domaine que j'ai pu appréhender. Je me souviens avoir souvent dit, après mes études et mes premières années de pratique, comme ça, sans y réfléchir véritablement, que les architectes, en ce qu'ils étaient des artistes, étaient avant tout des autodidactes. Je le dis à nouveau aujourd'hui, mais avec moins de légèreté et plus de conviction. Il y a peu d'années encore, la première tâche d'un professeur, aidé en cela par des livres, était d'apporter les connaissances aux élèves. Aujourd'hui, les connaissances sont partout, directement disponibles. Il suffit d'avoir accès à Internet. On y trouve tout. Pour une personne de ma génération, qui renaclait à la fréquentation des bibliothèques, même les plus libres, cela semble miraculeux. Michel Serres le dit, quand j'entre dans l'amphithéâtre, les étudiants savent déjà ce dont je vais parler. Pourtant, cela ne diminue pas l'intérêt du cours, cela le déplace et l'augmente. Le miracle ne réduit en effet pas le métier d'enseignant, il le rend seulement beaucoup plus difficile. Dans le déferlement des réponses se mélangent pêle-mêle avec des informations utiles et sérieuses, des inexactitudes, des erreurs même, des mensonges, accompagné d'innombrables commentaires inappropriés. Il faut trier. Comment le faire sans une connaissance préalable, sans une méthode? Ceux qui ont fait comme moi des études classiques, les vieux, n'ont pas trop de mal à le faire, mais les jeunes, ceux qui découvrent tout, il leur faut apprendre à apprendre. C'est la tâche nouvelle de l'enseignant de les aider à le faire. C'est vrai de toutes les connaissances, c'est particulièrement vrai pour l'architecture. Alors que les livres étaient rares dans ma jeunesse et assez chers, souvent en noir et blanc, c'est aujourd'hui un déluge d'images, souvent répétitives, accompagnées de commentaires et de jugements divers. J'ai fait récemment cet exercice instructif de faire une conférence d'une heure à Harvard sur les aéroports et les aérogares en n'utilisant que des documents que je trouvais sur Internet, dans Google Earth en particulier, mais aussi dans beaucoup d'autres sites, souvent inattendus. J'ai retrouvé des informations que j'avais perdues, oubliées, jamais eues souvent, dans un domaine que j'ai pourtant parcouru pendant plus de 30 ans. C'est magnifique. Mais c'est aussi un peu trompeur. Je savais ce que je cherchais. C'est toute la différence de la navigation avec et sans boussole. Les informations que je trouvais, je savais bien séparer celles qui m'étaient utiles des autres, écarter très vite celles qui étaient erronées. J'avais tout loisir de me distraire à rechercher des connaissances nouvelles, marginales, mais importantes pour moi, sur le mythe d'Icare, par exemple, et ses représentations picturales successives. Modestement, j'ai essayé d'apprendre à mes étudiants chinois à faire le tri de l'information en utilisant et en développant leur esprit critique. Pourquoi une image particulière d'un bâtiment connu revient-elle si souvent? Est-ce l'effet d'un consensus des observateurs ou le résultat d'une communication dirigée et encadrée des auteurs, propriétaires et utilisateurs? Comme le sont les photos de stars qui les représentent toujours sous leur meilleur angle. L'innocence est-elle si répandue sur Internet qu'on puisse se laisser aller à tout croire, et en particulier à donner foi aux textes qui accompagnent, expliquent et parfois justifient les images? Que de fois, les doutes que j'exprimais m'ont attiré une réponse, toujours la même, c'est l'architecte qui l'a écrit. Que de fois j'ai dû répéter que les architectes qui commentent leurs projets ne sont certes pas tous des menteurs, mais qu'ils décrivent leurs intentions initiales après avoir achevé les études et la construction, et ne conservent alors que ce qui reste cohérent ou admis par l'usage. Il faut donc écouter ce qu'ils disent, mais ne pas croire par principe sans réfléchir. Il ne faut surtout pas accepter pour vrai ce que beaucoup de gens répètent sans le comprendre mieux que vous, en particulier, pêle-mêle, les mots de la philosophie et des mathématiques que l'on trouve dans les journaux. Je me souviens par exemple d'avoir eu le plus grand mal à convaincre un étudiant qu'un espace d'exposition, au demeurant intéressant, n'était certainement pas, quoi qu'en ait dit son auteur et les articles des revues, une surface de Möbius. Comment parvenir à faire le tri nécessaire sans devenir sceptique et méconnaître une source d'information indispensable? Cette question difficile appelle sans doute tout un ensemble de réponses. La mienne, certainement insuffisante, est qu'il ne faut jamais rechercher de l'information sur une question à laquelle on n'a pas d'abord réfléchi. C'est pour moi un fait d'expérience. Très pratiquement, si je dois examiner des projets, au jury d'un concours par exemple, l'analyse que je fais de chacun d'entre eux est tout à fait banale et sans intérêt si je n'ai pas réfléchi d'abord. Et ce n'est pas tant parce que les erreurs m'échappent, on n'est pas au jury pour relever des erreurs, mais plutôt des qualités. C'est parce que l'originalité des solutions proposées ne m'apparaît jamais si elle ne vient pas se heurter à une première pensée de ma part. Même conventionnelle, je parle de ma pensée, même ordinaire. Je suis par ailleurs tout à fait dérouté par le recours bien ancré maintenant aux images de référence. Elles ont été longtemps une manière de complément, d'excipient, pour épaissir la sauce des propositions aux clients, pour les convaincre que l'on s'est pénétré de leur culture la plus intime, que le projet qui leur est soumis est à la fois original, jamais vu, et conforme aux couleurs, aux formes et aux habitudes qui sont les leurs. C'est, je l'ai appris récemment, la recette des chansons qui marchent. De petites nouveautés, dans un ensemble dans lequel on dissimule sous des arrangements des éléments connus, le tout donnant à l'auditeur le sentiment qu'il découvre une création bouleversante. Mais l'usage des images de référence est devenu plus répandu encore. À la seule lecture du titre du projet et d'un ou deux paragraphes du programme, voilà qu'élèves ou architectes plus ou moins jeunes se précipitent sur leurs ordinateurs à la recherche de références. Qu'ont fait les architectes en vue, et les rebelles, et ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre? Très bien. Comment utiliser ce fatras? La réponse est claire, faute d'une méthode, d'un désir au moins pressenti, il reste en général inutile, ou pire, il inspire quelques mauvaises copies. C'est ce à quoi la mode et son commerce nous habituent à grand renfort d'articles et de publicités, à la somnolence de notre esprit critique. Encore une fois, chacun le sait bien, et l'oublie toujours, classer, ne fût-ce que quelques documents, demande un mode de classement. Choisir un mode de classement suppose une intention préalable, issue d'une analyse, d'une réflexion ou d'une intuition. Et c'est souvent, presque toujours, un processus en boucle, beaucoup plus hasardeux, mais aussi beaucoup plus créatif que celui linéaire et clair que l'on décrira à la fin comme une démonstration. Et ne croyez pas qu'ici la pratique des arts et celle des sciences soient différentes. Certains des plus grands mathématiciens le disent, les démonstrations des livres dissimulent plus qu'elles ne le révèlent le vrai cheminement de la pensée. Ce sont des mises en forme. L'objet fini, représenté seul par une image de synthèse ou une photographie, sur un fond qui l'isole davantage qu'une île dans le Pacifique, le texte souvent faussement savant qui l'accompagne, ne disent rien ou très peu de l'architecture. J'ai fait l'expérience de proposer à des architectes qui venaient d'achever leurs études que chacun présente aux autres, après quelques jours de préparation, un bâtiment qu'il aime particulièrement. La plupart ont choisi un bâtiment récent, connu, non dépourvu de qualité plastique, mais isolé de son contexte. Ils n'en connaissaient dans la majeure partie des cas ni les dimensions principales, ni l'usage précis, ni les matériaux de construction. Au total, rien de ce qui fait l'architecture dans ses notions les plus primaires d'habiter ou de construire. Comme dans beaucoup de revues ou de sites aujourd'hui, pas de plan ou de coupe. Comme si on pouvait désormais se passer de leur abstraction rigoureuse pour concevoir l'espace. Mais non. Pas plus que le bavardage ne peut tenir lieu de pensée, le virtuel ne peut pas remplacer l'abstraction. Il m'arrive souvent de dire que les images mentent, d'en faire le reproche à ceux qui les produisent, mais à la vérité, ceux qui ont tort sont ceux qui se contentent de leur séduction. C'est après cette expérience que j'ai proposé aux étudiants, plutôt qu'un projet de plus, un travail, en groupe, d'analyse approfondie d'une construction existante. Nous l'avons fait tant bien que mal, avec des difficultés de calendrier, de langue et de compréhension mutuelle. Je suis convaincu maintenant que cet exercice, que d'autres disciplines utilisent, l'analyse, est à tous les moments des études et de la vie professionnelle un des plus structurants. J'arrêterai ici mes quelques réflexions d'enseignant, mais seulement après avoir répété cette phrase que l'on attribue au poète Yeats et à beaucoup d'autres qui se sont contentés de la reprendre. Enseigner ne consiste pas à remplir un seau, mais à allumer un feu. D'autres sont certainement des pyromanes plus experts que moi, ils le feront, ils se feront le nécessaire, mais vous, les étudiants, les jeunes architectes, veillez à être combustibles. Quelques mots encore sur la création architecturale, cette fois. Des 16 ans qui séparent ma première lettre de celle-ci, l'enseignement n'a accaparé qu'une partie des 4 dernières. Le reste du temps, je suis resté l'architecte que j'étais. J'ai aussi pas mal écrit, et toutes ces dernières années, beaucoup peint. Trafiqué, quoi, vous savez, vous vous souvenez d'Aragon et de Ferré, on pense à tout, on rêve, en attendant le jour qui vient. Architecte, j'ai mené bien les projets en cours, l'Opéra de Pékin en particulier, j'ai fait 7 projets nouveaux en Chine, très peu en France, à l'exception importante à mes yeux du bâtiment de la mairie de Bordeaux, ma ville natale. Je ne vais pas vous décrire ces projets. Quelques images, celles que vous verrez à côté, celles qui passent en continu, sans rapport avec ce que je peux dire, ou éventuellement vont éventuellement vous donner envie d'en savoir plus. Je vais vous parler simplement de manière plus personnelle, plus générale. Je pense que les dogmes et les grandes théories ont perdu de leur importance et que cela favorise une approche plus libre, plus foisonnante, au total plus créative de l'architecture. Il me semble aussi que la pratique de cette liberté plus grande s'accompagne de beaucoup de dévergondages. Là encore, peut-être parce qu'un certain nombre des acteurs économiques sont les mêmes, je vois une certaine ressemblance avec le monde de la mode et celui de l'art. Dans le premier, les créateurs sont soumis à des rythmes annuels infernaux, contraints à une communication permanente, starisés, c'est-à-dire isolés de tout ce qui, ordinaire et simple, pourrait nourrir leur travail. Dans le second, c'est au contraire à la répétition que les créateurs sont souvent invités, contraints de produire quelque chose aisément reconnaissable, mais l'effet est semblable, c'est ainsi qu'on brille et qu'on se consume. L'architecture ne peut échapper à ce phénomène général qui fait des footballeurs doués et des traders retors les héros à l'éclat aveuglant et fugitif de notre société, mais il faut espérer que les architectes sauront surfer sur ces vagues avec assez de lucidité et de retenue pour ne pas se noyer et engloutir avec eux l'architecture. Ni les décideurs ni les maîtres d'ouvrage n'ont à aucune époque tous brillé par leur culture. Aujourd'hui en tout cas, un peu partout et de manière caricaturale, dans le Golfe arabique et en Chine, ils réclament des icônes. Encore un mot que l'on a dépouillé de son sens et de son usage. En oubliant par exemple que les peintres qui représentaient des saints souhaitaient en perpétuer les traits physiques autant que spirituels. Après un passage par la téléphonie mobile où l'icône devient un signe aisément reconnaissable, elle envahit l'architecture comme l'expression d'un désir d'originalité, de jamais vu, de jamais osé. Bref, c'est un mot en perdition auquel s'attachent les plus grands désastres architecturaux du moment. Oubliez-le, bouchez-vous les oreilles quand on le prononce, ne l'utilisez jamais. Encore une autre chose, la dernière. Méfiez-vous des outils et des instruments, même les plus utiles, même les meilleurs. Il fut un temps pas si lointain où artisans et artistes concevaient leurs outils, les détournaient ensuite parfois de leur usage premier, bref, en les respectant toujours, en acceptant leurs spécificités, luttaient avec eux pour découvrir ce qu'ils désiraient. L'outil était et doit rester cela, un prolongement de la main et de la pensée, utile, à la fois soumis et rebelle, à la fin dominé, jamais sacralisé. L'ordinateur est un merveilleux outil. Les logiciels qui se succèdent permettent de visualiser, de calculer des choses de plus en plus complexes. Mais là est aussi le danger. La télévision commerciale, ses jeux, ses variétés et ses reality shows nous le montrent tous les jours depuis longtemps. Plus les moyens disponibles sont grands, plus médiocre est la qualité de la création. La raison principale de cette production médiocre est, me dit-on, le résultat d'une étude de marketing savant prouvant que c'est ce que le public attend. Je ne me fais pas à cette idée, et si j'ai tort, tant pis. Je continuerai d'avoir tort, je n'y crois pas, je ne veux pas y croire. C'est sur une autre cause que je voudrais attirer votre attention maintenant. L'ordinateur est un outil très complexe, de plus en plus puissant, que nous ne commandons, vous et moi, que par l'intermédiaire des logiciels qui en facilitent l'accès. C'est l'opposé de mon stylo, ce demeuré, à qui je commande presque tout directement. Le problème est que ces logiciels proposent des choix plus qu'ils n'invitent à l'imagination. Ils vont trop vite, ils nous bousculent, nous saturent d'informations inutiles si nous n'y prenons pas garde. Ils ne font pas d'erreurs, en particulier pas de celles que l'on nomme « heureuses ». Quand un geste manqué, un désir inconscient, la fatigue, l'énervement ou la colère, ou bien encore le seul hasard, nous font découvrir quelque chose d'inattendu. Le dessin, même le plus appliqué, crée des erreurs heureuses, parce qu'il accepte de rester flou, imprécis ou inattendu. Il accepte l'ellipse et l'insistance, à soi tout seul il exprime, parfois à l'insu de son auteur. L'ordinateur, jamais. Plus il fait de choses pour vous, plus il prend le pouvoir sur vous. Rappelez-vous la saisissante illustration que le film de Lozé, The Servant, donnait de l'inversion de la relation maître-esclave. Il en est toujours ainsi. Celui qui agit prend le pas sur celui qui commande, et de la même manière, celui qui invente prend le pas sur celui qui utilise l'invention. La médiocrité devient inévitable quand la manipulation devient une fin en soi. Un exemple parmi d'autres, celui du design paramétrique. Le principe est indiscutablement bon. Les logiciels de développement sont tout à fait respectables, mais les produits architecturaux qui en sont issus le sont rarement. Tant qu'il restera ce qu'il est aujourd'hui, je vous conseille de ne demander des services à l'ordinateur que pour ce qu'il peut faire de manière essentielle, vous aider à vérifier vos intuitions, à les préciser, à les rendre communicables. Avant cela, contentez-vous de raisonner, de rêver et de dessiner. J'avais le projet de vous parler de quelques autres sujets qui me tiennent à cœur. Pour beaucoup, ce sont des sujets que j'ai abordés dans ma première lettre il y a 16 ans, mais auxquels l'évolution de l'architecture m'a obligé de réfléchir davantage. La vérité d'abord, dont je déplore qu'elle ne soit plus un phare sur l'horizon, que son éclat ne nous guide plus, parce qu'il n'y a plus rien le plus souvent de visible au-delà des apparences et de la suffisance. La mesure et l'économie ensuite, elles aussi de valeurs d'horizon bien malmenées, quand se multiplient les projets qui ne répondent plus qu'à une volonté d'originalité et de puissance des uns, d'égotisme libéré des autres, et cela, paradoxalement, au moment où ensemble ils psalmodient, non, ils annonnent, à longueur de champ, les mots durables et intelligents. La vie des œuvres d'architecture, prise entre deux extrêmes, l'avilissement que tant d'utilisateurs font subir aux ouvrages qui leur sont confiés, parfois pire que la destruction, et à l'opposé, la dégradation précoce due à l'ignorance et à l'insouciance des concepteurs et des constructeurs. Rassurez-vous, je n'ai pas sombré dans la mélancolie. Je voulais vous parler aussi de beaucoup d'autres choses plus joyeuses, de ce bonheur par exemple toujours aussi intense, de voir se construire et vivre des espaces qui n'ont d'abord été que des gribouillis dans lesquels vous cherchiez à découvrir votre désir. Je reprendrai cela dans ma troisième lettre, dans 16 ans. Bien à vous.